un petit rappel, même si maintenant on a tous nos habitudes ici par rapport au Midi Pédago. Un Midi Pédago, c'est un temps de partage entre collègues autour de problématiques qui nous concernent dans la pratique de notre métier. Vous pouvez le suivre donc en direct ici et bénéficier d'un petit effet lunch and learn. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre à distance. On salue bien sûr tous les collègues qui nous suivent à distance ou qui nous regarderont en replay sur la plateforme. D'ailleurs, si vous pouvez envoyer un message pour nous dire que le son est bon, et vous pouvez en permanence, bien sûr, poser vos questions par l'intermédiaire de Gabin qui les relayera à la salle. Un petit mot peut-être pour laisser se présenter les personnes qui sont avec moi aujourd'hui.
Jean-Marc Autour, je suis à l'UFR des sciences et je fais des innovations pédagogiques un petit peu en mode de bricoleur, sans forcément avoir de support théorique depuis quelques années maintenant.
Voilà. Donc Jeannine Berthier, donc je suis ingénieure pédagogique au CEMU.
Jérôme Leri Pagège, voilà.
Thierry Pio, je suis professeur de sciences d'éducation ici à l'Université de Caen.
Très bien. Donc la perspective de le choix qu'on a fait sur la progression de ces six séances de Midi Pédago était de travailler autour des trois compétences centrales qui sont la conception, l'animation et l'évaluation des apprentissages, des enseignements et des apprentissages. On a parallèlement travaillé sur le contexte dans lequel l'enseignant travaille, sur son contexte réglementaire. On a également fait la dernière fois un Midi Pédago autour des outils de médiatisation et ces questions notamment liées au numérique. Et pour finir, on a quelque chose qui n'arrive pas en fin de cycle, qui ne touche pas la dernière attitude, c'est pas la dernière compétence, c'est plutôt quelque chose qui est transversal. On aurait pu commencer par cet élément-là. On va travailler et réfléchir et discuter autour des questions de posture, donc des postures professionnelles, et aussi et de la réflexivité dans laquelle l'enseignant doit ou devrait s'engager au cours de sa pratique en parallèle de son activité, hein, qui est dense, qui est importante. Mais de temps en temps, c'est utile, quelle que soit notre activité professionnelle, de prendre un pas de recul, d'avoir une vision un petit peu méta ou macro, je ne sais pas comment trop encore la nommer, pour s'interroger sur nos pratiques. Alors, j'ai envie de commencer peut-être en me tournant vers le spécialiste des sciences de l'éducation. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important de réfléchir, d'avoir une attitude critique? On dit, voilà, c'est bien de le faire, mais pourquoi c'est important de se distancier par rapport à ces gestes professionnels? Et puis aussi, comment on peut un peu procéder, par extension?
Alors, si je dois le dire de manière simple, c'est l'idée d'un enseignant réflexif, ce serait quelqu'un qui serait en train de pédaler et qui se regarderait pédaler pour améliorer la manière dont il pédale en fonction de son contexte et d'un ensemble d'éléments, même d'éléments internes. Donc la réflexivité, comme l'indique le terme lui-même dans son étymologie, ça consiste à être dans l'action, pendant l'action, à regarder si on fait correctement les choses. Hein, on peut déjà s'ajuster, si j'ose dire, en temps réel. On le fait tous de manière d'ailleurs intuitive, en dehors du monde de l'enseignement. Et puis, ça c'est la réflexivité, on va dire, un peu presque automatisée, et on en est tous des acteurs. Une réflexivité d'un niveau un peu supérieur, ce serait prendre le temps à côté de l'action, de revenir sur l'action, pour la décomposer, la revivre d'une certaine manière. On peut le faire individuellement, mais c'est aussi très intéressant de le faire collectivement. On est dans des logiques d'analyse de pratique. Et si je peux encore dire, il y a deux grands ouvrages, deux grands ouvrages pour des gens qui pourraient s'intéresser à ça. Un de John Dewey, qui s'appelle La logique de l'enquête, parce que celui qui est dans une logique réflexive, en fait, c'est quelqu'un qui, c'est un peu un Sherlock Holmes de sa propre activité professionnelle, parce qu'on fait l'hypothèse que chacun individuellement et collectivement, quand on réfléchit à ce qu'on fait et à ce qu'on a fait, on peut en apprendre quelque chose. Et de là, on peut faire des progrès, on peut s'adapter. On devient progressivement plus lucide. Hein, on peut voir que quelqu'un qui fait 10 fois la même chose et qui n'y réfléchit pas, dans l'absolu, il pourrait faire 10 fois la même erreur. Et tout en étant de bonne foi et en pensant qu'il fait correctement les choses. Celui qui est réflexif, il se met lui-même en enquête. Il devient à la fois enquêteur et enquêté, au sens de Dewey, au sens aussi d'un autre grand psychologue américain qui s'appelle Donald Schoen, qui a écrit un ouvrage important qui s'appelle « Le praticien réflexif ». Et tous ces gens-là, ils disent, quand on fait quelque chose et quand on prend de l'énergie et du temps à réfléchir à ce qu'on a fait, on ne peut que s'améliorer. Alors, on peut dire que quand on fait les choses dans un monde, on va dire, qui est relativement stable, on apprend, j'allais dire, sur le tas, et puis tranquillement, les choses vont à peu près bien. Quand on est dans un monde mouvant, dans un monde qui change, les règles, les normes, les personnes, les modalités, les technologies, on a intérêt à être en veille, on a intérêt à être éveillé au sens de Donald Schoen. Et celui qui est éveillé, il regarde les éléments qui surviennent, les choses qu'on n'a pas bien réussi alors qu'on pensait qu'on les avait réussies. En fait, voilà, on prend de l'énergie à regarder ce qu'on fait, un peu dans le rétroviseur, mais pour la prochaine fois qu'on va rencontrer une situation un peu analogue, on sera meilleur. On ne sera pas les bras ballants en disant « Ah oui, la dernière fois, je n'ai pas réussi, mais qu'est-ce que je peux faire ?» C'est un peu ça, la logique. Donc, ça veut dire que ça demande de l'énergie en plus de ce qu'on fait ordinairement. Hein. Mais si on en apprend quelque chose et qu'on est plus efficace, ça développe aussi la confiance en soi pour un enseignant. Le sentiment qu'on appelle sentiment d'efficacité personnelle. Si on va chercher ça chez un autre psychologue, grand psychologue américain qui s'appelle Bandura. Et donc, on est plus affûté pour faire son job vis-à-vis des élèves, des étudiants. Et on se sent mieux dans son costume professionnel. Donc, à mon avis, c'est un investissement gagnant-gagnant. Moi, ce qui me semble important, c'est d'engager une posture réflexive, mais au niveau collectif. Chacun peut regarder ce qu'il a fait, c'est déjà un premier palier. Mais quand on prend de l'énergie à le faire collectivement, on est dans des dynamiques qu'on appelle dynamiques d'analyse de pratique, et on peut s'entre-conseiller. Des pairs, PIR, qui rencontrent le même problème, peut-être que chacun, avec son expérience, sa personnalité, le collectif peut déjà construire des réponses. Et c'est donc plutôt vertueux à tout point de vue, mais c'est chronophage. Donc il faut l'inclure dans l'activité. Parce que si on le fait en plus le soir ou quand on n'a pas le temps, on se dit ça sert à rien et ça me plaît pas. Donc ce qu'il faudrait, c'est inclure dans l'activité même un temps réflexif en fait. Je suis désolé, j'ai peut-être.
Je me tournerai peut-être directement vers Jean-Marc pour peut-être de rebondir sur ce qui vient d'être dit.
Oui, comment je me reconnais complètement dans ce sens qu'effectivement. Il y a eu un moment où, dans ma pratique d'enseignant, j'étais pas à l'aise et je me suis dit, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à tester des choses. Et effectivement, j'ai eu un bien-être à partir dans ces nouvelles pratiques et des choses comme ça. Donc, ça, je valide complètement. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, la première réflexivité pour beaucoup de collègues, c'est les notes finalement, c'est les résultats des élèves, mais c'est absolument pas suffisant parce que c'est. Voilà, et souvent, c'est pour ça qu'on se sent mal également quand les notes ne sont pas bonnes, c'est parce qu'on a l'impression d'être évalué au travers des résultats des notes. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Sinon, les plateformes, oui, quelque chose sur lequel je voulais réagir aussi. J'ai beaucoup de collègues qui se sentent agressés par ces nouvelles technologies. Au final, effectivement, le fait de ne pas être en veille par rapport à ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la révolution numérique est passée par là. Les choses ont changé, notre public a changé, et le fait de ne pas rester en éveil ou en veille par rapport à tous ces changements, il y a un moment donné, on se sent complètement agressé. Enfin, on a certaines réactions, des fois, on se dit, des sensations de malaise. Enfin, on l'a vécu il n'y a pas très longtemps. Voilà, ça, c'est inquiétant, c'est même inquiétant pour les collègues. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux... Quelques expériences, effectivement, sur... mettre des questionnaires en ligne à la fin d'un cours pour essayer de savoir si les différentes expériences qu'on peut être mises en place ont permis de mieux comprendre le cours, ont permis de venir, enfin, ont motivé à venir en cours. Enfin, il y a des choses qu'on avait créées avec Janine. Enfin, le CMU est là pour nous aider à mettre ces questionnaires en cours, leur laisser la parole au travers de champs libres. Et là, à chaque fois, on a des retours qui sont toujours assez motivés. Voilà. Et puis également sur la posture en tant qu'enseignant, comment dirais-je, moi j'ai été éduqué et toute ma formation on visait à choisir le meilleur, enfin faut être le meilleur, quoi, faut avoir la meilleure note possible, etc. Et dans ma pratique, en tous les cas, dans ma pratique pédagogique, en tous les cas, en début de carrière, c'est la question que je me posais à la fin d'un cours, c'est est-ce que j'ai été bon ? Est-ce que j'ai été bon à la fin du cours ? Et au final, aujourd'hui, je suis plus sur une posture où je me pose la question, est-ce qu'ils ont compris quelque chose ? Est-ce qu'ils ont été acteurs ? Est-ce qu'ils ont été motivés pour venir en cours ? Voilà. Donc c'est une posture qui a changé. Mais ça, alors, ce changement de posture, évidemment, ça prend du temps. Et les premières fois, on a l'impression de sauter dans le vide. Et on a l'impression de sauter dans le vide sans parachute. Donc, quand on part sur des expériences, en plus, moi, effectivement, j'avais aucun support théorique sur les pratiques. Et les premières expériences, je me suis dit, je vais me planter complètement. Les étudiants vont rien retenir de ce que je vais, de ce que je vais faire. Voilà.
Donc c'est ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est que partant d'une réflexion sur ta performance, tu en es venu à changer ta pratique.
Ah oui.
et placer le curseur sur le groupe, sur les étudiants.
Voilà.
Oui, en général, c'est un peu ce questionnement-là qui fait qu'un enseignant va se mettre dans une démarche réflexive. C'est-à-dire qu'on a l'enseignant qui va passer du stade de dire bon, bah, voilà. À la limite, une approche contenue, hein, dire j'enseigne sur tel contenu, je fais mon cours, et à un moment, il va se poser la question en disant, mais voilà, j'enseigne, mais est-ce qu'ils apprennent, quoi ? Et commencer à avoir une réflexion sur l'apprentissage des étudiants, et se poser la question de savoir, est-ce que les méthodes que j'utilise sont bien adaptées ? Est-ce que mes méthodes d'évaluation sont aussi adaptées ? Enfin, on rejoint le fameux alignement pédagogique, on en parle à chaque midi pédago, mais c'est vraiment ça, quoi. Et à partir du moment où l'enseignant est dans cette démarche-là en disant « Oui, est-ce que mes étudiants apprennent ?», c'est là où, évidemment, il se met dans une posture où il va dire « Est-ce que je fais correctement ? Si je ne le fais pas, comment je peux faire évoluer mes méthodes ?» Et c'est là que, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite, mais où vraiment l'équipe du CMU est là pour accompagner les enseignants dans cette démarche-là. Hein. En plus, c'est vrai que le CMU est beaucoup identifié, a été beaucoup identifié jusqu'à présent comme plutôt un service un peu, on va dire, pédagogie numérique. Maintenant, on est vraiment un service d'appui à la pédagogie. Tous les ingénieurs pédagogiques ont suivi une formation assez importante, une formation longue de conseiller pédagogique, hein, justement, pour accompagner les enseignants dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent, un enseignant se pose une question. Ça peut être sur n'importe quoi, hein. Ça peut être, je fais un cours en amphi et je vois bien que ça ne fonctionne pas. Ou alors, je veux revoir complètement mon cours parce que ça ne fonctionne pas. Là, l'ingénieur pédagogique va accompagner l'enseignant, hein. C'est-à-dire il va vraiment essayer d'identifier avec lui quelle est vraiment sa problématique. Il va aussi, avec l'enseignant, construire un questionnaire, hein, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est à un moment où il faut faire une enquête, hein, donc il va mener une enquête, il va aider l'enseignant à faire un questionnaire, ils vont après évidemment débriefer ensemble le questionnaire, analyser les réponses des étudiants, et puis après il va être force de proposition, il va venir lui conseiller, et aussi c'est là où on va pouvoir lui conseiller pour faire le lien avec tous les autres midi pédago et puis le dispositif enseigné en supérieur, c'est-à-dire on pourra aussi lui conseiller des formations, les modules de formation, puisque tous les modules de formation qu'on a déployés dans le dispositif enseigné dans le supérieur, c'est aussi pour accompagner un enseignant dans cette démarche.
Dans cette perspective, quand je suis enseignant, j'entends parler de nouveaux dispositifs, j'entends parler de classe inversée, d'hybridation, j'entends des mots à la mode qui viennent et qui peuvent effectivement parfois venir de façon brutale dans mon quotidien en me disant « mince, qu'est-ce que c'est ? C'est une injonction ? C'est quelque chose qu'on m'impose ? Est-ce que c'est une mode ? Est-ce que ça marche ?» Comment on s'y retrouve quand on n'est pas spécialiste des sciences de l'éducation ? Comment on peut... Est-ce qu'il faut être spécialiste des sciences de l'éducation pour être enseignant ? Est-ce que ça devrait être le cas ?
J'aurais tendance à dire oui. Non, je plaisante. Bien évidemment qu'on peut être un spécialiste des sciences de l'éducation. Par contre, les sciences de l'éducation se donnent pour objet de réfléchir à ces problématiques-là. On pourrait réfléchir, mais ce n'est pas spécialement ce midi-pédago, sur ce que c'est que la pédagogie. C'est un mot valise, très polysémique, qui est utilisé dans beaucoup de sens. Différence entre didactique et pédagogie. Est-ce qu'il y a une pédagogie différente pour, en fonction des tranches d'âge, en fonction du contenu d'enseignement ? Donc il y aurait une vraie réflexion à mener sur la notion même de pédagogie. Je ne vais pas vous citer les 3-4 ouvrages de référence qui sont sortis ces dernières années, mais en tout cas, on a là quelque chose d'intéressant. Ce qu'on peut signaler quand même, c'est que par rapport à cette logique réflexive, il est d'autant plus important pour un humain ordinaire d'être dans une posture réflexive, donc de s'interroger sur ce qu'il fait, qu'on est dans une phase de transition. Or, on est dans les logiques d'apprentissage de manière globale, dans une phase de transition stratégique. J'allais dire, la dernière grande transition d'aussi grande ampleur de mon point de vue, elle a été introduite par M. Gutenberg, qui a inventé une machine à imprimer pour fabriquer des livres. Si on imagine l'école avant l'invention du livre, donc quand les livres étaient rares et chers, etc., vous avez peut-être tous vu Le Nom de la Rose, qui montre la rareté des ouvrages, eh bien, en fait, apprendre, c'était mémoriser, puisqu'on n'avait pas de support écrit pérenne. Bon, quand on a eu des ouvrages, apprendre, c'est complètement transformé, et c'est aussi grâce à cette rupture technologique introduite par l'imprimerie qu'on a pu progressivement aller aussi vers une école, l'école de Jules Ferry. L'école pour tous, pour toutes les petites filles et les petits garçons, parce qu'on avait aussi les technologies qui allaient avec. Il a fallu des intentions politiques, bien évidemment, qui accompagnent tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une nouvelle rupture, c'est-à-dire que la pédagogie, si on l'a dit en quelques mots simples, le pédagogue, c'est quelqu'un qui est médiateur entre un apprenant, quel que soit son apprentissage, et quel que soit son âge et ce qu'il apprend, et puis un objet d'apprentissage, un objet de contenu. Quand un parent il apprend à son enfant à marcher, ben il y a une forme de, il y a une posture pédagogique, j'allais dire entre guillemets naturelle. Il n'y a pas besoin d'école pour aller pour ces choses-là. Quand on apprend à lire un enfant de 6 ans, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des modalités donc de médiation qui s'invitent. Et comme tous les enfants apprennent à lire différemment, eh bien, il faut réfléchir un petit peu aux voies, aux variabilités de tel apprenant par rapport à tel contenu d'apprentissage. Et donc le numérique, il introduit, j'allais dire, un champ des possibles, d'une part. Il y a des nouvelles choses qu'on peut faire, qu'on ne pouvait pas faire avant. Et en même temps, il y a une espèce de verre plus ou moins opaque en fonction des personnes, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le gap technologique. Est-ce que je vais y arriver ? Ça a l'air d'être compliqué. Les gens qui sont spécialistes, ils utilisent un vocabulaire. Moi, ce n'est pas le mien. Donc, finalement, c'est une forme de nouvelle langue étrangère et qui fabrique de la distance. Donc, à la fois, il y a un champ des possibles, il y a des fossés ou des obstacles qui surviennent. Et c'est pour ça. Et donc, quand on est dans des logiques de réflexivité, tu as parlé tout à l'heure, j'étais au bord du gouffre, je sautais sans parachute. Il y a besoin d'un accompagnement costaud, à la fois sur le plan humain, donc quelque chose de bienveillant, et puis quelque chose d'exigeant, parce qu'on n'est pas à Bisounoursland, et qu'il faut faire des progrès concrets dans la capacité à mettre un cours en ligne, à concevoir un questionnaire, etc. Donc la fonction, à mon avis, la fonction clé du CEMU, c'est de faire du soutien ou de l'accompagnement dans le cadre de ces ruptures technologiques qui permettent des ouvertures pédagogiques. Donc pour moi, ça, c'est vraiment stratégique. Et donc, il y a à la fois, j'allais dire, mettre en œuvre concrètement les possibles, parce que tout ça, le bénéfice, c'est la réussite étudiante, c'est notre job, finalement, donc ne perdons pas de vue les étudiants, que ce qu'on leur offre comme médiation, donc pédagogique, et j'aurais tendance à dire pédagogique et didactique, mais je ne vais pas trop creuser cette affaire-là dès maintenant, ce qu'on leur offre comme médiation avec les leviers technologiques, eh bien, ça leur permet de réussir leurs études. Mmh. Voilà, un petit peu en deux mots. Alors, c'est facilement dit, mais le challenge, il est là.
Mais concrètement, est-ce que j'en reviens sur les pédagogies actives vers lesquelles on pousse, est-ce que c'est quelque chose qui marche? D'ailleurs, même, j'aimerais ajouter une autre chose, est-ce que c'est complètement nouveau? Est-ce que ça n'existait pas déjà avant le numérique?
Les pédagogies actives, elles datent de la fin du 19e siècle. Mmh. Hein. Pour le dire en deux mots, parce que sinon... Je suis parti pour longtemps. On va dire que l'école obligatoire, hein, l'école de Guizot, qui a été 1833, Jules Ferry, les lois sur l'école publique gratuite, laïque obligatoire, les lois autour des années 1880. Bon, ça y est, tout le monde, toutes les petites filles, les petits garçons allaient à l'école primaire. La maternelle n'existait pas, donc à l'école élémentaire. Et puis aller jusqu'au certificat d'études pour aller très vite. Bon. On s'est aperçu que le modèle pédagogique de l'époque était un modèle frontal dominant, un modèle en fait qui instruisait et qui socialisait de manière descendante, puisque l'école, elle instruit et elle socialise. Donc à socialiser, c'est apprendre à vivre ensemble. Instruire, c'est le fameux compter, lire, écrire, quoi, si vous voulez, si on le dit très rapidement. Ça mériterait des développements et j'espère que les spécialistes qui pourraient m'écouter ne m'en voudront pas plus que cela. Donc, on avait un modèle pédagogique, en fait, où les enfants, il fallait qu'ils se taisent, qu'ils lèvent le doigt et qu'ils écoutent. Ce qu'on sait, il y a un certain nombre de personnes, alors, John Dewey aux États-Unis, en Angleterre, quelqu'un a inventé une école nouvelle, une new school. C'est pour ça qu'on a parlé d'école nouvelle. Et puis ensuite, ça s'est développé de Crowley, Maria Montessori en Italie, et puis le célèbre Célestin Freinet en France. Tous ces gens-là, ils ont dit, on va mettre les élèves en activité. John Dewey, que je viens d'évoquer, disait « learning by doing ». Donc un aphorisme qui nous dit, c'est en faisant les choses qu'on les apprend. Bon, on est exactement dans cette logique-là de faire en sorte que celui qui apprend, il ne subisse pas son apprentissage comme un pensum, comme quelque chose qui est lourd sur ses épaules, ce soit quelqu'un qui devienne acteur de ses apprentissages. Et cette posture-là, c'est par elle-même une posture réflexive pour l'apprenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'enseignant qu'on peut inviter à être réflexif. On invite aussi un enfant, à dire quand tu fais quelque chose, tu checkes un petit peu, tu fais un accord verbe-sujet. Je prends des choses très, très simples de l'école élémentaire. Tu fais un accord verbe-sujet, t'écris, tu revérifies si le verbe est accordé au sujet. Des choses aussi, basiques que ça dans les apprentissages. Et ça permet de consolider et d'avancer pas à pas. Et celui qui apprend, c'est un partenaire de l'enseignant. Mmh. Quand on est dans la logique coopérative, dans des logiques partenariales où celui qui apprend, il est acteur, eh bien, les rôles sont clairement répartis. Hein. Je ne dis pas qu'il y a une relation horizontale entre l'enseignant et l'apprenant, mais il y a, dans la symétrie de celui qui est garant des apprentissages et de celui qui apprend, il y a une forme d'horizontalité. On peut se parler, donc les choses sont plus fluentes, sont relationnellement, on essaie à la fois d'être, comme on dit, et comme le dit d'ailleurs maintenant l'école de la République, d'être bienveillant, mais exigeant. Sachant qu'on peut considérer que être exigeant avec quelqu'un qui apprend, c'est à son égard une forme de bienveillance, puisqu'on souhaite qu'il réussisse. Voilà, en quelques mots.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai d'ailleurs bien répondu à ta question.
Non, pas tout à fait, mais...
Ce qui me semblait.
Parce que l'une des interrogations, on pourrait y revenir, c'est sur la question de l'efficacité, parce que l'enseignant, il cherche à être efficace à l'échelle de son cours, et parfois, ça peut être utile de pouvoir avoir l'éclairage des sciences de l'éducation pour l'encourager ou le dissuader à aller dans certaines directions qui ont été testées de façon longitudinale, qui ont été démontrées comme étant... dans des conditions d'exercice définies, plus efficaces, pertinentes.
Alors, pour préciser, les ingénieurs pédagogiques, c'est leur rôle aussi.
C'est-à-dire
que c'est un ingénieur pédagogique qui va accompagner un enseignant. Lui, il va se baser, il va avoir des repères théoriques. C'est-à-dire que, bon, si je reprends l'exemple de Jean-Marc, quand on a travaillé ensemble, c'était vraiment les débuts de la classe inversée, de l'hybridation. Moi, je me suis basée aussi sur des travaux de recherche sur l'hybridation, tous les projets ISUB, les équipes de Louvain. Et on a eu un temps d'échange avec Jean-Marc là-dessus. On s'est dit, voilà, et puis, on y va. Donc, il s'est lancé dans une expérimentation en classe inversée. Il y a quand même déjà 5-6 ans, donc à l'époque. Il faut se dire, un enseignant... nous, on est là aussi pour l'accompagner. C'est-à-dire que nous, ça fait partie de notre job, tout le suivi des travaux de recherche, de tout ce qui se passe en pédagogie, on va dire en enseignement en ligne, en pédagogie numérique.
La production de l'information, la diffusion de l'information en matière de...
Et donc le modèle scientifique des sciences d'éducation de manière générale, ce n'est pas un modèle de sciences dures. Ce n'est pas un modèle où on a des données probantes, parce que... apprendre, c'est basé sur une relation, et la relation, on peut pas la computer en 0-1, et avec, sinon on aurait une procédure et puis on y arriverait, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça marche, la vraie vie. Donc on a des états émotionnels les uns les autres, tous ici dans cette salle et puis derrière la caméra, qui favorisent ou peuvent éventuellement entraver le processus d'apprentissage. Donc les éléments de contexte sont importants. C'est pour ça qu'il faut des médiations qui soient ouvertes. Et l'intérêt des outils numériques et des pédagogies numériques, c'est d'ouvrir le champ des possibles en pédagogie. Donc, par exemple, quelqu'un assiste à un cours en direct, il n'est pas dans un bon état parce qu'il est fatigué, pour x ou y raison, ses prises de notes ne sont pas très efficaces. Bon, s'il peut revenir sur ce cours parce que le dit cours est en ligne, eh bien, à un moment donné où il est disponible, en fonction de ses contraintes, de sa vie familiale, du moment où, en fonction de son job, etc., il va choisir et va pouvoir revenir sur un cours en décalé. Ben, la technologie, elle donne ici une valeur ajoutée assez simplement décrite, mais on a d'autres outils, on a d'autres leviers. Le fait de faire des petits quiz sur des cours, ça permet de checker qu'on peut avancer correctement plutôt que d'avancer en croyant qu'on a compris, mais il reste des trous dans la raquette. Et ça veut dire que l'année prochaine ou dans 6 mois, il y a quelque chose qui posera problème et on ne saura pas d'où ça vient. Donc en fait, ça permet de sécuriser finalement les apprentissages. Voilà.
Et donc c'est pareil par rapport à l'usage des nouvelles technologies ou l'usage d'e-campus, c'est-à-dire parce qu'il y a des enseignants qui se lancent dans cette démarche seuls. Tous les enseignants n'ont pas besoin des ingénieurs pédagogiques. Mais en tous les cas, il y a un moment, il faut faire attention. C'est-à-dire, si on ne maîtrise pas bien ces nouvelles technologies, après, on peut être confronté justement à des difficultés. Et là aussi, le rôle des ingénieurs pédagogiques est intéressant parce qu'eux, ils connaissent quand même toute la partie, on va dire, technologique et numérique. Et ils seront là aussi pour dire, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Ou alors, au contraire, je ne sais pas, un enseignant qui va se lancer dans un travail collaboratif, travail de groupe, en utilisant e-campus. Parce qu'on est là, on est vraiment dans l'étudiant, acteur de son apprentissage, en plus, il travaille en groupe et tout. Et vraiment, sur e-campus, il y a tous les outils pour gérer ça. Et du coup, ça facilite. Mais si un enseignant ne connaît pas ça, ça devient vraiment, mais là, très lourd à gérer. Donc c'est là où l'intervention et l'accompagnement d'un ingénieur pédagogique est intéressante. Parce qu'en plus, aussi, l'ingénieur pédagogique, donc, tout à l'heure, tu parlais de cette notion de pair qui est importante, partage de pratiques. L'ingénieur pédagogique, lui, il aura peut-être déjà... Moi, voilà, la première expérimentation que j'ai faite avec Jean-Marc, elle m'a servi après pour travailler avec d'autres enseignants. Et c'est vrai que ce partage de pratiques, mine de rien, c'est l'ingénieur pédagogique, il est au cœur de ce réseau de partage de pratiques.
Tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, alors j'ai deux choses. La première chose, c'est sur l'innovation pédagogique. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui était en maternelle et qui apprenait à compter. Et en fait, pour un enfant, apprendre à compter, c'est une marche énorme, parce qu'il ne sait pas compter et d'un seul coup, il doit savoir compter, quoi. Et en fait, on se rend compte qu'ils font des ateliers, il y a des travaux en îlot, ils apprennent à compter sur leurs doigts, ils apprennent à compter des pièces, ils apprennent à classer, il y a plein d'expériences différentes pour apprendre à compter, quoi. Voilà. C'était c'était la première chose que... Et donc, effectivement, ils n'ont pas de numérique. Donc, ils apprennent à compter sans le numérique. Donc, l'innovation pédagogique, ouais. Et du coup, c'était assez inspirant, d'ailleurs, à l'époque. Je regardais ce qui se faisait dans la classe et je me disais, tiens, on peut peut-être essayer. Donc, pareil pour les Learning Labs, quoi, finalement. Quand on regarde une salle de maternelle, c'est un Learning Lab. Il y a des dessins partout. Oui. Enfin, c'est un Learning Lab, quoi. Et le mobilier peut bouger. Enfin, voilà. Bon. Et donc oui, sur la posture réflexive, moi je voudrais insister sur l'aspect GIPN et puis les conférences, quoi. C'est vrai que voilà, les GIPN, c'est une... Alors il y en a d'autres évidemment, mais celle-là elle est organisée.
Journée d'innovation pédagogique.
Les journées d'innovation pédagogique normandes, parce que il y a à la fois des experts qui vont venir présenter faire une conférence vraiment. Avec en plus, donc c'est pas une conférence de sciences de l'éducation, donc le quidam arrive à comprendre ce qu'on nous raconte. Bon, des fois, les sciences de l'éducation peuvent être un petit peu compliquées lorsqu'on aborde ce sujet-là. Enfin, moi, je sais que mes premières expériences ont été. Il y avait une marge assez haute.
On s'est compris depuis tout à l'heure.
Ah, tout à fait, voilà. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que aller dans une conférence de sciences de l'éduc, quand on n'est pas du tout du domaine,
domaine, voilà. On a mais besoin là, de base.
C'est ça. Que là, les orateurs font l'effort de
C'est très vertueux.
Et donc les GPN, c'est aussi des ateliers. Donc du coup, on peut mettre en pratique, tester, voilà, puis on peut partager ses expériences avec des collègues, avec des ingénieurs pédagogiques, etc., etc. Et donc, et c'est vrai qu'on parlait de soutien. Moi, je sais que j'ai été aussi mis en avant par le CEMU à un moment donné pour ces différentes expériences. Et ça participe à réconforter un peu dans les risques qu'on peut prendre, dans le sentiment de risque qu'on peut avoir à un moment donné.
Oui, parce que en plus, nous, quand on accompagne un enseignant, on va dire, qui est dans une démarche praticien réflexif, nous, on va essayer de le faire aussi atteindre la posture qui est aussi, pourquoi pas, d'être un praticien chercheur, quoi. C'est-à-dire, par exemple, quand on a travaillé avec Jean-Marc, eh bien, il y a eu un article. C'est-à-dire qu'après, on a travaillé sur un article, tu as présenté un colloque. Moi, j'ai travaillé aussi avec Isabelle Grand, justement, sur un projet de travail collaboratif. Eh bien, après, on a rédigé un article. Et les JPN, c'est ça aussi. Enfin, notre objectif, nous, c'est ensuite, si on expérimente quelque chose avec un enseignant, donc qui est vraiment dans une démarche réflexive, mais après, c'est de le pousser à partager ça avec la communauté. Et les JPN, c'est vraiment ça. Hein. Le JPN, c'est la communauté de praticiens normands, d'enseignants praticiens normands.
Alors oui, donc je voulais plutôt presque finir sur la question du partage de cette logique un peu. Enfin, on pourra peut-être parler du SOTL. Qui est dans cette logique de ne pas simplement rester enfermé autour de sa propre réflexivité. Effectivement, elle gagne à être partagée parce que, y compris si ça se passe mal, hein, à mon avis, il y a tout autant à apprendre d'une situation qui n'a pas abouti, qu'une situation qui a été pleine de succès. Pour le SOTL, le SOTL Scholarship of Teaching and Learning, c'est une méthode justement qui vise à accompagner les enseignants depuis.
Alors c'est une démarche de développement professionnel des enseignants. Et puis, et nous, équipe CEMU, on accompagne, on se base un peu sur cette méthode pour accompagner les enseignants qui veulent se lancer dans cette démarche. Mais c'est vraiment une démarche de développement professionnel en pédagogie. Hein. Pédagogie, oui, enseignement et apprentissage. Quoi. Vraiment, cette notion importante de se dire enseignement, c'est dans le titre, hein, c'est learning and teaching, hein, c'est vraiment apprendre. Et donc, on parle de praticiens réflexifs, c'est ça, c'est dans cette démarche. Ils ont identifié, c'est Donné et Charlier hein, qui ont identifié 6 postures. Ça va du praticien, simple praticien qui est plutôt dans l'action, mais jusqu'à la dernière posture qui est vraiment un chercheur, quoi. Devenir chercheur, pourquoi pas, en sciences de l'éducation.
Il y a même. Alors, si on voulait être complètement.
rationnel en tant qu'enseignant. On pourrait se dire que c'est bien, c'est important d'avoir de la réflexivité, mais il y avait même une époque où, enfin, il y avait jusqu'à une époque très récente, il y avait assez peu d'intérêt malgré tout, en dehors de sa bonne conscience professionnelle, à investir du temps dans cette perspective pédagogique. Donc, l'enseignement supérieur est d'abord structuré par les enseignants-chercheurs, et leur progression de carrière, leur performance, elle a été évaluée de façon... l'héritage de la loi la LOLF de 2001, la performance, elle a été évaluée sur un critère qui était facilement mesurable, qui est celui de la publication dans des articles, parce qu'il y a des classements de revues, que ça permet d'avoir quelque chose qui objectivait. Alors ça avait un intérêt, certains, ça permettait de pouvoir évaluer la performance. Ça a eu un désavantage manifeste pendant 15 ans, ça a été peut-être de reléguer la pédagogie dans les différents soins qu'a l'enseignant-chercheur, de peut-être stratégiquement être davantage poussé à produire qu'à investir en termes de pédagogie, de réflexivité. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a quand même un mouvement de contrebalancier qui arrive.
Alors il est timide.
Il est timide.
Il est timide, mais c'est vrai qu'on est un enseignant à l'université, il est enseignant-chercheur, il est évalué sur ses qualités de chercheur, mais on oublie de regarder son travail d'enseignant, comme si c'était un sous-travail. Alors que les usagers auxquels on s'adresse, qui sont nos étudiants, mériteraient bien mieux que cela. Et donc, soyons sans être... sans avoir, dans les temps qui courent, un propos excessivement politique, on peut quand même considérer que la fonction d'enseignant a toujours été d'un moindre intérêt, perçue comme telle, en tout cas par l'institution, et par l'institution qui nous donne notre feuille de route. Alors on peut espérer que ça change, mais parce qu'aujourd'hui, il y a le feu. Moi, j'ai la chance d'être élu dans les conseils centraux de notre université. Le problème principal de l'université aujourd'hui, dans les conseils concernant la formation et la vie étudiante, c'est qu'on a 30% des étudiants, sur un étudiant qui entre en licence 1 cette année, normalement, il n'y en aura que 1 sur 3, qui va avoir sa licence en 3 ans. Ça veut dire qu'on a beaucoup de déperditions en ligne. Alors, il y a des éléments externes dus à la vie des étudiants, mais on ne peut pas penser que la qualité de l'offre de formation n'est pas sans influence. Et aujourd'hui, le principal levier qu'on a, c'est de redécouvrir, de prendre réellement au sérieux la pédagogie pour essayer de faire mieux réussir nos étudiants, c'est-à-dire les faire déjà persévérer pour qu'ils n'abandonnent pas et d'aller chercher cette licence. Alors, si, en fonction d'un certain nombre de critères, on va chercher la licence en 4 ans plutôt qu'en 3 ans, ce n'est pas un drame, parce qu'on sort avec quelque chose, si j'ose dire. Notre principal challenge, il est là aujourd'hui. Et on peut penser qu'une bonne maîtrise de ce que j'ai appelé les possibles numériques, c'est au service de cette réussite des étudiants. C'est d'inventer des nouvelles médiations, des médiations centrées sur le contenu, mais aussi des nouvelles modalités de dialoguer entre un enseignant et ses étudiants. Donc il y a des pistes. Alors, tout à l'heure a été évoqué l'extraordinaire... Alors même si j'aime beaucoup, beaucoup le CEMU, et je pense que son rôle est très important, mais... moi, quand je bricole et que j'ai une boîte à outils avec tous les outils du monde, je ne sais même pas lequel il faut que je choisisse. Je ne sais pas si le bon outil, il est au fond de la boîte ou quoi. Donc, mais c'est un chemin à faire. C'est pas une critique intrinsèque. Il y a un chemin à faire pour avoir peut-être quelques bons outils de base. N'importe quel bricoleur ou quelqu'un qui est spécialiste d'un champ quelconque, il dirait, bon, voilà, déjà, si tu commences, prends ces trois trucs-là. Et puis, en deuxième, on mettra d'autres outils dans ta boîte à outils. Et puis, progressivement, tu monteras en niveau de maîtrise. Parce que, donc il y a des chantiers qui sont divers. Mais ce chantier-là, d'accompagner les étudiants, c'est plus, j'allais dire, ceux qui veulent. On est au pied du mur. Il y a une obligation. Il y a une obligation d'inclure des... le début de carrière maintenant, l'outil numérique avec ses potentialités dans l'offre de formation. Et donc, le plan de notre université à Caen qui s'appelle Réussite Plurielle, qui est un PIA, il imagine que dans 10 ans, une partie non négligeable de l'offre de formation se fera avec le numérique. Pas que. Hein. Donc on est sur les outils hybrides parce qu'on sait que, en général, ce n'est pas les jusque-boutistes de quelques bords qui soient qui font vraiment avancer le Schmilblick. Donc le tout présentiel, il a vécu. On a d'autres possibles maintenant. Le tout numérique, ben, on s'aperçoit que les destinataires ne mordent pas. C'est-à-dire que si on fait réussir que les très bons étudiants, bon, c'est bien, mais on y arrive quelle que soit la manière, on fait réussir tous les très bons étudiants. Ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre dans la boucle de la réussite des étudiants fragiles. Est-ce que l'outil numérique, avec les offres, avec les leviers qu'il propose, il va permettre de s'adapter à des étudiants qui ne réussiraient pas si facilement ? Il est là le challenge, et c'est à la fois un beau challenge pour n'importe quel pédagogue, et c'est comme ça, me semble-t-il, qu'il faut voir les choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui es praticien.
Je voudrais faire une remarque, là, où on a fait nos jurys de premier semestre de L1, et je ne sais pas il y a combien d'étudiants où c'est « ah bah lui, il travaille ». Et du coup, il peut pas venir en cours, et du coup, il a pas validé, il a abandonné parce qu'à un moment donné, il a pas les ressources, il a pas les exercices, quoi. Donc,
il travaille ça, en dehors de.
Oui, il travaille. On a des étudiants qui sont aujourd'hui dans des situations sociales. Bon, c'est pas notre job, mais c'est une réalité telle qu'ils doivent travailler pour pouvoir avoir les choses élémentaires de la vie, manger, se loger, quoi. Donc, effectivement, ça peut être aussi une réponse. Et l'autre challenge, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on donne le bac à beaucoup de lycéens. Enfin, le ticket d'entrée dans les études supérieures est facilité. Bon, peut-être un peu dur, mais quand même est facilité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des étudiants qui arrivent chez nous, qui n'ont pas forcément toutes les billes en termes d'autonomie, etc. Comment on fait pour les accompagner pour, effectivement, en 3-4 ans, les emmener à un niveau bac plus 3, quoi.
Et à cet égard, le MOOC compétences orthographiques, qui a été développé, c'est le type même de l'outil. Et il faut appuyer sur ce bouton-là, quoi.
Mais ça impose un changement de posture. Enfin, moi, je suis en sciences, et en sciences, on cherche à former des futurs doctorants. Donc, du coup, au lieu de justement d'accompagner les élèves qui sont un petit peu fragiles, on cherche plutôt à sélectionner ceux qu'on pourra emmener jusqu'au niveau master. Et ça, et même dans les offres de formation qu'on va définir derrière, ça fait des dégâts, quoi. Ça fait des vrais dégâts.
Alors, pour revenir sur ce que j'ai. L'idée qu'il y a un contrebalancier qui arrive et que ça peut être aussi stratégique d'être réflexif, même si on n'a pas envie de l'être, c'est que. On a un appareillage juridique qui fait que, à côté des CRCT, donc des congés de recherche. Et de conversion thématique et également des primes de recherche qui existaient sont en train de se mettre en place des congés pour projets pédagogiques et des primes pour investissements pédagogiques qui essayent de rééquilibrer et aussi de créer de l'appétence pour les enseignants à investir la pédagogie et investir. C'est quelque chose, mais faut pouvoir le documenter. Comment on dit, parce que c'est facile de pouvoir dire j'ai fait un bon article, regardez, il a été pris dans une bonne revue, donc ça c'est le gage de qualité. Pour un enseignant, dire voilà, j'ai fait un bon cours, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le valorise? D'ailleurs, comment on le valorise?
Comment on valorise? Je sais pas.
La réponse, mais.
Donc La pédagogie, pour savoir si on a fait une bonne œuvre d'un point de vue pédagogique et didactique, finalement, c'est les usagers. C'est-à-dire, y a-t-il eu un apprentissage? Puisque enseigner, c'est faire apprendre, pour le dire très rapidement. Donc, on peut regarder du point de vue de ceux qui ont appris. Est-ce qu'eux déclarent qu'ils ont appris? On peut leur faire des évaluations pour savoir si, objectivement, ils maîtrisent tel ou tel contenu d'apprentissage. Et donc, je pense qu'il faut du feedback, en fait. Innover, prendre des chemins qui n'ont jamais été pris avec un nouvel outil, c'est déjà une première posture. Après, il faut prendre du feedback, c'est-à-dire prendre des informations, dites des informations en retour, auprès de questionnaires qualité auprès des usagers, auprès d'évolutions qui, eux, en tant que en tant qu'usager recevant l'offre de formation, ils disent bah oui, il y a plus de souplesse ici, moi ça me permet de poursuivre. Là, d'un point de vue didactique, c'est pas trop clair. Il y a tout un tas d'outils, donc il faut les pour en faire un usage avec discernement au bénéfice des apprentissages, ben, il faut prendre au sérieux ceux qui apprennent et les mettre dans la boucle. Il n'y a pas d'enseignant sans apprenant qui donne du feedback sur ce qu'ils ont reçu. Je pense que la régulation, elle vient de là. Donc il faut documenter, comme tu le disais il y a quelques instants.
Et puis il faut aussi que l'enseignant puisse lui-même se faire un feedback sur l'expérience qu'il a mise en place, parce que elle va certainement évoluer, cette expérience. C'est-à-dire, il va faire un premier... je pense que le cours que tu as fait en formation hybride il y a 5 ans, il a évolué depuis.
Massacré, parce que je l'ai laissé. Donc, il y a des gens qui l'ont massacré derrière. Mais la séquence était complètement massacrée.
Donc, il y a aussi... faut pouvoir un petit peu documenter ces expériences, les analyser, les faire évoluer. Et oui. Donc, je ne sais pas, je sais que dans le dispositif enseigné dans le supérieur, on a mis un module là-dessus. Alors, est-ce que le e-portfolio est l'outil? Mais, à tous les cas, un e-portfolio aussi peut être un outil à disposition de l'enseignant réflexif pour...
Ça permet de tracer, donner des points de repère dans des parcours. En tout cas, c'est vertueux de ce point de vue-là, au moins. Après, ce qu'il faut, c'est des espaces de dialogue, j'allais dire, à tous les étages. Alors, les JPN, c'est un espace de dialogue qui est médiatisé, qui brille. Enfin, voilà, c'est pas bling-bling, mais c'est un des moments clés dans l'année. C'est ça que je veux dire, Janine.
Oui.
Et après, des moments comme celui-ci, c'est aussi un autre moment. Et puis, il y a des choses, assurément et forcément, des choses plus invisibles, plus modestes qui jouent, mais qui sont des éléments intéressants. Le praticien réflexif, il revient et il met en mots ce qu'il fait et il le met en controverse, si j'ose dire. Et le mettant en controverse, il prend un risque. Il a le risque, côté clair de la force, c'est qu'il peut progresser par d'autres. Et puis côté obscur, c'est qu'il peut se perdre. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a besoin de soutien et d'accompagnement, de mon point de vue.
Moi, je m'étais noté une remarque par rapport à la thématique. Moi, j'ai eu la chance de partir en délégation dans le Centre de culture scientifique, technologique et industrielle de Normandie, donc pour relais de sciences, pour ne pas le nommer, et d'être dans un tiers lieu qui s'appelle le Dôme. Je pense que il faut aussi apprendre à aller voir un petit peu ailleurs ce qui se fait dans ces lieux. Pour faire très très rapide. La problématique d'un visiteur dans un musée, c'est quelque part très très proche de la problématique d'un étudiant en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musées cherchent à rendre acteurs les visiteurs, à développer. Alors, on ne vient plus dans une exposition juste pour regarder et puis repartir. On va dans un musée, créer des objets dans un Fab Lab, créer des scénarios sur une thématique donnée, sur le handicap, sur la mobilité, inventer. À plusieurs, donc avec un travail de groupe, des scénarios et des choses comme ça. Voilà, donc j'ai eu la chance notre métier, nos statuts nous permettent de faire ce genre de choses, de partir vers un inconnu, et ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit sur notre pratique d'enseignant derrière.
Pour nourrir sa créativité,
pour se nourrir.
Voilà.
C'est clair. Voilà. Mais alors, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir le Dôme. Il y a le WIP aussi à Mondeville, qui est un espace dans la halle de Colombelle, qui est un lieu, je n'ai pas encore été voir, mais qui est un lieu qui peut être intéressant. Voilà.
Alors, l'heure tourne un petit peu. On peut peut-être se garder quelques minutes pour quelques questions, si vous en avez dans le public. Je vais jeter le micro au cas où besoin. Ou à distance. Non. Ah, Florie. Le micro, c'est surtout. C'est pour les gens à distance qui puissent entendre la question. Voilà.
Bonjour. Donc, moi, je suis jeune maître de camp, je suis stagiaire. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Et du coup, alors vous dites c'est chronophage, nous on veut bien se lancer, mais alors on se lance en recherche, on se lance un peu partout, et on se demande combien de temps, enfin, concrètement, qu'est-ce, en termes d'investissement, combien de temps ça peut prendre de mettre en place une pédagogie active ou, si on contacte quelqu'un au CMU, combien de temps on va mettre en place, par exemple, ne serait-ce que mettre en place le questionnaire, parce qu'on va faire nos premières années d'enseignement, avoir un retour déjà sur notre première, enfin, notre façon de faire actuelle. Combien de temps on peut mettre
Si c'est vraiment déjà avoir mettre en place un peu un temps de réflexion sur un cours, par exemple, que vous, là, vous avez un cours, je sais pas, du semestre 1, par exemple, là, un temps, ça va être, on va dire quoi, peut-être 2 heures, enfin, peut-être un temps déjà d'échange avec l'ingénieur pédagogique pour bien qu'ils vous connaissent, qu'ils connaissent votre problématique, qu'ils prennent en compte tout le contexte de votre enseignement. Le questionnaire, à la limite, on a des, ils sont tout faits. On va juste l'adapter en fonction de votre contexte, votre profil à vous, profil d'étudiant. Après, lui, l'ingénieur pédagogique peut faire tout le suivi, hein, c'est-à-dire la mise en ligne du questionnaire, le relevé, évidemment, de toutes les réponses, une première analyse. Et puis après, ben, faut prévoir un temps avec l'ingénieur pédagogique de débrief, en disant, ben voilà, voilà le retour. A priori, ça a plutôt bien fonctionné, ça n'a pas bien fonctionné. Et puis après, bah, le temps, ça va être, on va dire, une discussion avec lui. C'est aussi, il va vous proposer, ou elle, il va vous proposer après, en fonction justement du temps que vous avez, parce qu'il ne va pas vous proposer de vous lancer peut-être dans une refonte complète de votre cours avec des méthodes où, je ne sais pas, je reviens sur l'apprentissage collaboratif, si vous n'avez pas le temps, quoi. C'est lui aussi qui va être en capacité de vous proposer quelque chose qui est adapté à votre profil et à votre contexte. Voilà. Ou votre, par exemple, votre niveau de maîtrise des outils, quoi. Si vous êtes quelqu'un, si vous êtes un enseignant qui n'a jamais utilisé Campus, bah, il ne va pas vous proposer la première année de vous lancer dans une refonte complète. Il va vous dire, on va commencer, on va plutôt faire ça, on va le tester. Quoi. Donc ça peut être, si vous n'avez pas beaucoup de temps, ça peut être très peu de temps étalé sur un semestre. Et puis après, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en compétences. Et puis après, l'année suivante, on peut se lancer. Mais surtout, il ne faut pas se lancer dans des choses très ambitieuses au départ, parce que c'est là où vous allez être confronté à des difficultés. Et là, ça va avoir l'effet inverse, parce que du coup, ça va vous déstabiliser, peut-être déstabiliser les étudiants aussi, parce qu'ils vont être confrontés à quelque chose qui est mal paramétré, mal organisé. Après, il ne faut pas hésiter non plus à dire aux étudiants, cette année avec vous, dans cet enseignement-là, je vais expérimenter quelque chose. Voilà. Et puis le dire, ça fonctionne très bien. Hein. Leur dire, je tente avec vous, je vous propose. Vraiment, les associés, ça c'est...
C'est toujours assez drôle d'ailleurs.
Oui, et on est toujours, les enseignants sont toujours surpris, on a toujours cette crainte. Toujours cette crainte de se dire si je fais ça je me plante, alors que si dès le départ vous dites on fait ça ensemble et puis on ça fonctionne très bien et au contraire ça marche très bien, et si ça s'est pas déroulé comme vous le souhaitez, mais c'est pas grave parce que eux, ils ont partagé ça avec vous. Vous êtes dans quelle composante?
Je suis UFR Sciences.
UFR Sciences. Marie.
Ça prend trop de temps. Donc ça, c'est la première chose. Et ça prend le temps qu'on a envie d'y passer.
Oui, c'est ça.
Donc effectivement, ça dépend de ses priorités un petit peu. C'est vrai que moi, pendant tout le début de ma carrière, ma priorité, c'était le labo, c'était la recherche, etc. Je me suis un peu lassé. Petit à petit, ma proportion de travail de recherche scientifique a diminué au profit d'activités plus de recherche pédagogique, je vais l'appeler comme ça, même si c'est peut-être pas ce que je fais, mais j'en suis pas si loin quand même. C'est tester des nouvelles choses, voilà. Oui. J'ai changé ma façon de faire de la recherche.
Et puis,
c'est comme ça que je le vois, moi, donc en testant des choses avec les étudiants.
Par exemple, on parle d'hybridation, donc hybridation, ça veut dire qu'il y a des temps d'apprentissage en ligne, tu parlais de médiatiser des ressources. C'est vrai que l'année 1, ça va prendre du temps, mais l'ingénieur pédagogique, il va aussi réfléchir à ça avec vous, se dire, par exemple, cette année, je vais passer cette partie de mon cours plutôt en ligne, même si en ligne, ça ne veut pas dire que... c'est-à-dire qu'il faut quand même accompagner, mais il y a des choses que vous pouvez capitaliser qui vous feront peut-être gagner du temps l'année suivante. Donc c'est ça qui est important, et où l'accompagnement du CMU est quand même... faut dire, une plus-value, parce qu'eux, ils ont aussi l'expérience de d'autres enseignants, de pratiques d'enseignants. Donc, ils vont pouvoir vous guider en fonction de...
Mais après, c'est un leurre de nous faire croire qu'on peut faire et de l'enseignement, et de la recherche, et de l'administration, et la vie de famille, quoi. Ça marche pas. Donc, il y a un moment donné, ça veut dire qu'il y a un choix, il y a des choix à faire, quoi. Enfin, moi, voilà. C'est vraiment des leurres, et on n'est pas des machines, et il faut se garder... Et puis, en plus, il faut se garder du temps pour autre chose, parce que ce temps pour autre chose aussi, il nous nourrit dans notre travail d'enseignement. Voilà, parce que ce temps pour autre chose, c'est le temps qu'on va voir ailleurs, on va voir ce qui se passe, on va faire des expos, on va, et on va au cinéma, et tout ça, ça nous nourrit dans notre... Enfin, j'en suis convaincu. Mais ça nous permet de connaître notre public, par exemple, parce que c'est des... Enfin, voilà, ils sont citoyens comme nous, donc faut pas qu'on soit en décalage par rapport à eux.
Oui.
Donc, la question du temps, voilà, elle est là. C'est le choix qu'on se fait à un moment donné. C'est vrai qu'on est jeune. Quand on est jeune, à cause de les critères, c'est la recherche, on va avoir tendance, quand on est jeune, plutôt à partir en labo, alors qu'on pourrait très bien envisager qu'en début de carrière, on fasse de l'investissement en pédagogie, et qu'à un moment donné, on se lasse, donc on repart. Enfin, ça devrait être ça, notre métier, pouvoir choisir un peu là où on veut mettre notre accent. Enfin,
Thierry, peut-être pour...
Oui, moi, je suis un garçon pragmatique, donc je dirais qui va piano va sano. Il ne faut pas se laisser asphyxier. Et d'autre part, être un enseignant réflexif pour intégrer les possibilités des outils numériques dans son enseignement, ce n'est pas réservé à l'élite. Voilà. Je pense que le type d'accompagnement que fournit le CEMU, dans l'ensemble des figures d'accompagnement qu'on peut retrouver dans la littérature, c'est celle du coach. Il fait un bon diagnostic de départ de savoir où on en est. Il se donne des objectifs raisonnables pour performer. Et puis, on monte en charge. Donc, c'est ça, un coach sportif, il vous prend, il ne va pas vous mettre en compète s'il y a besoin de faire un an, une année de mise à niveau.
Et donc, puis, il va vous valoriser à un moment si, aussi, parce que c'est important quand on se lance dans une démarche d'être valorisé. Notre rôle, ça va être de vous valoriser.
Voilà, le coach souligne les réussites.
Voilà.
Comme tout enseignant qui, à sa mesure, à un moment donné, a une forme de coaching vis-à-vis de ses étudiants. Donc, moi, je pense qu'il faut se donner des objectifs, dire petit à petit, et ce qu'a dit Jeannine tout à l'heure est intéressant, c'est parce qu'on est dans une logique de capitalisation vertueuse. Ça veut dire que ce qu'on a mis en place une année, ça nous a pris un peu de temps, mais ça nous en libère, puisque après, c'est mis en ligne. Il n'y a plus qu'à réguler ou adapter en fonction des feedbacks, et donc on peut remettre un peu de temps dans autre chose. Donc ça c'est intéressant. Moi, j'ai eu l'immense bonheur de mettre quelque chose en ligne au CEMU cette année, et j'estime avoir été très bien coaché pour y arriver. Je vois ma coach là-bas, et donc et c'est vrai que ça me soulage et ça me donne du temps pour faire autre chose, donc que ce soit du temps personnel ou pour améliorer, pour tirer un autre levier numérique plus tard, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit rentrer dans l'ordinaire de tout jeune collègue, en fait.
Et puis ça peut venir en réponse à quelque chose que j'aime bien comme expression, à son tourment pédagogique. Il y a des choses qui parfois aussi nous posent vraiment problème et que voilà, on peut avoir un peu d'apaisement ici. Le tourment pédagogique,
pas mal. Il y a aussi, alors juste redire, en ce moment, il y a l'appel à projet, transformation pédagogique qui a été lancé. Je ne sais plus jusqu'à quand, Gabin, les réponses, mais c'est aussi un moyen pour un enseignant d'être valorisé en heure. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, finalement, oui, je me lance dans un projet.
C'est pas possible pour un enseignant stagiaire.
Ah, c'est pas possible. Si tout personnel changé d'enseignement, l'appel à projet.
Il ne pourra pas bénéficier des heures.
C'est ce que je dis.
Ah oui, mince. Bon. Mais dès l'année prochaine.
En tout cas, l'appel à projet qu'on lance tous les ans, l'objectif, c'est ça aussi, c'est d'accompagner un enseignant qui se lance dans un projet. Donc il est coaché et en même temps, il est valorisé en heures, donc c'est pas négligeable non plus, quoi.
Pour maintenir un petit peu le timing d'une heure et le format, donc on va s'arrêter ici. Le dernier midi pédagogique programmé, alors midi pédago programmé, alors peut-être qu'il y aura des bonus dans les mois qui viennent. Dans tous les cas, donc vous avez entendu parler des JIPN. Retenez bien ces journées qui ont lieu cette année à Caen, 7 et 8.
Oui.
6 et 7
6 et 7.
6 et 7, voilà, autour du 7.
6 et 7 juillet.
6 et 7
Lundi
juillet.
Mardi.
Voilà. à Caen. C'est un moment qui est effectivement très intéressant pour pouvoir mettre un petit peu en mouvement tout ce qu'on a évoqué ici, ne pas être seul, parler avec des collègues d'autres disciplines, pouvoir entendre des expériences, pouvoir partager ses expériences aussi, manipuler. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et ça marque un peu souvent la fin de notre année. Même si on continue un peu à travailler en juillet, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là et qui crée un temps de convivialité aussi très utile dans notre communauté. Donc, je vous remercie.
Il y a des mojitos.
Et je vous remercie. J'ai rien dit. Je vous remercie, Thierry, Jean-Marc et Janine. Merci aussi à Gabin et à Thierry pour la réalisation. Merci à vous tous et donc très bonne continuation en février.
Merci à toi, Jérôme.
Au revoir.